Hello. Eh bien, nous, on est le Radiolab, l'atelier des jeunes de Radio PFM, associative, libre et sans pub. Et ce, depuis 1981, depuis que tonton Mitterrand a libéré les ondes. RPZ d'Arras, c'est dans le 6-2, méfie-teux, c'est tout en haut. Genre pour nous, tout est le sud. Avec plus ou moins de sérieux, surtout le moins, on s'est délecté des sujets imposés par jet d'encre, des amours. Je dis ça, il y a toute l'équipe devant moi prête à me fumer. Bon, sinon, pour nous écouter, c'est le 99.9, cité près d'Arras, ou sur notre site radiopfm.com. Bonne écoute!
Dans le cadre du festival Expresso, organisé par l'asso Jet d'encre, Fadil Bayat, journaliste pigiste à France 24, était l'invité d'une conférence à échanger sur son reportage sur le corridor de Suwalski, prochain objectif militaire des Russes, ainsi que sur le métier de journaliste. Nous, le Radiolab, avons eu l'occasion de lui poser quelques questions sur le lien entre deux menaces actuelles, les talibans et les Russes, et de leur traitement médiatique, ainsi que de la paix dans le monde.
Je pense que c'est pas évident de faire le lien, parce que le régime russe, il est déjà installé, il existe déjà, il est bon, légitime à sa manière, entre guillemets, dans le sens où il dure depuis longtemps, il est installé depuis longtemps, et il a le contrôle de tout l'État, ce qui n'est pas le cas des talibans qui ont juste redébarqué après des dizaines d'années et qui essayent en fait de contrôler un État sur lequel ils n'ont pas vraiment la main. Parce qu'ils n'ont pas une économie qui leur permet de contrôler un État correctement. Ils n'ont pas l'administration nécessaire pour faire ça, ce qui n'est pas le cas de la Russie.
Votre avis sur la paix actuelle dans le monde ?
Je pense qu'effectivement, la paix dans le monde, elle est fragile en ce moment. J'ai l'impression, en tout cas, voilà, moi je reste encore relativement jeune, mais à 29 ans, j'ai jamais vu autant de conflits d'un coup qui se déroulent dans le monde. Et sachant que chaque conflit a l'air d'en envenimer un autre, comme par exemple là, l'Ukraine, qui fait augmenter le prix de tout, des carburants, du blé, etc. Et le blé qui crée de la famine en Afrique, et puis qui dit famine en Afrique, dit plus de conflits sur place, etc. Donc, le tout s'alimente un peu, donc je pense qu'on peut clairement dire que la paix est fragile.
Pourquoi on se sent plus concerné par la menace russe que celle des talibans ?
Je pense que, en fait, sur le moment, quand c'est arrivé, les talibans, les gens se sont sentis concernés d'un coup alors qu'ils ne l'étaient pas du tout. Parce que c'est arrivé vraiment soudainement et parce que c'est arrivé de manière un peu violente. Tout le monde croyait que ça fait 20 ans qu'on est en Afghanistan pour améliorer les choses et on s'est rendu compte que finalement c'est retour à la case départ. Alors sur le moment du coup les gens se sont sentis concernés, mais effectivement pendant 20 ans c'est pas le cas. Alors que là les gens voient une culture un peu plus proche de la leur en France, ils se disent c'est un peu chez nous entre guillemets, même si ça reste à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, de Paris. Et je pense que du coup, forcément, ça les touche parce que là, tout de suite, ils se disent « Ah ben, l'Ukraine, c'est un pays que j'aurais pu visiter beaucoup plus que l'Afghanistan, par exemple. »
Laissons place à Adèle qui nous fait un coup de gueule en direct.
Attendez qu'on remette un petit coup de déo. Ah oui, voilà, ça va mieux. Parce que oui, faut se l'avouer, en radio, on entend beaucoup des propos assez puants. Il y en a qui feraient mieux de fermer leur gueule, comme dirait Patrick Sébastien.
Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France.
Oui, on a le droit à la liberté d'expression, mais quand on voit que certaines personnes abusent de cette liberté et ne cherchent qu'à propager la haine, on se dit que certains feraient mieux de tourner la langue cette fois dans la bouche avant de parler. Il y a des personnes qui, à travers leur discours, ont l'air intéressantes, mais qui en réalité diffusent des idées qui ne volent pas bien haut. Et ces personnes-là, je leur dis tout de suite, redescendez sur terre, car les gens se rendront compte après coup que vos idées ne tiennent pas vraiment la route. Comme il est dit dans le film La Haine, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Moi, je dis non au discours d'extrême droite qui propage des idées racistes, sexistes, homophobes. Je comprends pas comment ces personnes peuvent être encore crédules et sont encore soutenues dans notre société actuelle. Ces tyrans parviennent par le simple pouvoir de la parole à emporter l'adhésion de millions de personnes. C'est donc une mise en garde que je vous fais, chers auditeurs. Ne tombez pas dans ce piège et n'accordez pas une confiance aveugle, car les images comme les mots sont trompeurs. Aérez-vous l'esprit et cogitez tout ça pour laisser sortir ces odeurs nauséabondes. Allez les jeunes, mobilisez-vous! Faites entendre votre voix et ne laissez pas le vieillard aux propos machistes diriger notre pays! Mobilisez-vous!
retrouver notre nouvelle émission en compagnie du présentateur Lou. Bonjour à tous, vous êtes dans Immunité Lambda. Nous accueillons trois ministres de ce gouvernement 2022 et vous avez tous un point en commun. Vous êtes tous les trois accusés de faits graves. Vous devriez mettre fin à votre mandat, mais vous restez. Donc on peut dire merci à Monsieur le Président. Nous allons donc déterminer dans ce jeu le ministre d'entre vous qui pourra rester dans ce gouvernement. Le gagnant remportera le totem d'immunité et les perdants repartiront avec une convocation au commissariat. Mais nos participants repartiront tous avec l'exemplaire 2022 du dictionnaire Larousse. Je vous propose de découvrir les règles du jeu, elles sont simples. Cher ministre, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Commençons avec Monsieur Darmanin, accusé de viol et de chantage sexuel. Qu'avez-vous à nous dire ?
Ah bon, elle le voulait un peu quand même, hein.
Merci Monsieur Darmanin. Passons à Monsieur Abad, accusé lui aussi de viol. Bonjour Monsieur Abad, nous vous écoutons.
Comment voulez-vous que je fasse quelque chose à une femme alors que je suis handicapée ?
C'est vraiment ce que vous avez dit pour votre défense. Et vous, Madame Zakharopoulou, qui êtes aussi accusée de viol dans le cadre de votre métier, gynécologue, quelle est votre défense ?
Mais enfin, comment une autre femme peut violer une autre femme ?
Nous avons donc écouté chaque candidat, tout de suite les résultats. Et le gagnant de ce totem d'immunité pour ce mandat de 2022 est... Vous tous, car c'est le président qui décide et pas nous malheureusement. Vous repartez donc chacun avec un totem d'immunité et l'édition 2022 du Larousse. Mais en compensation du commissariat, tous les Français vous détestent. Et on se retrouve au prochain gouvernement dans Immunité Lambda. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt.
Avec les réseaux sociaux, les mêmes se sont invités dans nos villes, dans nos campagnes politiques. Même si les mêmes sont d'un caractère humoristique, ils sont en réalité plus dangereux qu'ils nous paraissent, puisqu'ils nous influencent inconsciemment. Nous avons donc interrogé les jeunes qui utilisent le plus les réseaux sociaux à propos de ce questionnement qui nous chiffonne.
Tu pourrais nous décrire un mème politique qui t'a fait rire ?
Bah déjà celui qu'ils nous ont donné là, CNews. Je trouve ça très drôle de pouvoir mettre des fausses mains ou des fausses actions en dessous des politiques parce que ça les décrédibilise un peu et ça fait un peu plus rire sur des sujets un peu sérieux.
La salle en général c'est un petit peu un mème ambulant mais c'est...
En fait, je pense que les mêmes politiques, c'est surtout ceux où les politiques se sont débrouillés pour se mettre tout seuls dans une situation où ils paraissent ridicules. En fait, il y a besoin de créer de mèmes, ils se débrouillent très bien tout seuls pour nous faire rire et à créer des mèmes tout seuls. Genre par exemple, La République c'est moi de Mélenchon, Debout de Valérie Pécresse, Les Bavoyons d'Éric Zemmour, Ils sont partout dans les villes dans les campagnes de Marine Le Pen. Enfin, la liste non exhaustive de mèmes assez amusants voilà, qui m'ont amusé.
Un mème politique ? Oula, vous me prenez de court. T'as un mème politique qui t'a fait rire, ça ?
Un mème politique ? Non, bah il y a Le Pen qui monte le SMS, enfin la capture d'écran Twitter. Oui, aussi, t'as Mélenchon. C'est pas un mème, c'est une vidéo. T'as Mélenchon, après la défaite de Blanquer et de Zemmour aux législatives, il a mis sur TikTok une vidéo avec Chez, où il disait Chez, double Chez, en mettant les captures d'écran de défaite de Blanquer et de Zemmour. Voilà, je sais pas si c'est un mème, mais c'est un truc assez rigolo, voilà.
Un mème politique qui m'a fait rire, Pécresse. Franchement, le mème de Pécresse sur l'argent, sur ses dons, sur l'appel aux dons en fait de Pécresse est hilarant.
Il y a du mème où elle est dans la rue et elle demande de l'argent alors qu'elle...
Ouais, il y a eu pas mal de détournages et franchement c'est marrant de ouf.
Emmanuel Macron qui est habillé, tu sais, en suite à l'Elysée, où on le prenait pour un prof de sport. Ça m'a fait pas mal rire. Ça m'a fait tellement rire que je l'ai foutu en fond d'écran. Et comme ça, à chaque fois que je riais, à chaque fois que je lançais mon téléphone, ça paraît bête, hein, mais oui, je l'ai fait. J'ai mis en fond d'écran et bon, au bout d'un moment, ça m'a lassé. Mais ça m'a fait pas mal rire sur le coup.
Selon toi, est-ce qu'un politique qui utilise des mèmes pourrait influencer ?
Je pense qu'aujourd'hui, avec la circulation des mèmes, etc., ça peut influencer certaines personnes. Ça peut donner une image du politique qui peut peut-être, entre guillemets, adoucir son image, qui peut le rendre amusant aux yeux de certains Français. Donc je pense que ça peut, oui, effectivement, aider un homme politique à avoir une image particulière. Qui peut, alors, ça peut être en bien comme en mal. Hein, pour Le Pen, bon, c'est en mal. Mais pour certains hommes politiques, ça peut leur permettre justement de paraître plus sympathique aux Français de manière générale. Enfin, je pense, hein.
Les mèmes, c'est pas des idées, c'est pas un programme. Les mèmes, c'est juste un effet de mode, en quelque sorte, sur quelque chose de rigolo. Donc si des gens votent pour un politique à cause de ces mèmes, c'est que ces gens sont sacrément bêtes.
Je pense que c'est possible. Je veux dire, je sais que... Alors, c'est pas spécifique à la France, mais Bernie Sanders était connu aux États-Unis, enfin, était populaire aux États-Unis parmi les jeunes et était devenu une sorte de mème en tant que tel. Et il y a aussi Trump qui... Bon, Trump, en soi, c'est pas une blague, mais ses réactions, etc., ont été transformées en mèmes. Donc ça a été... ouais. Ça, c'est un exemple d'un politique qui est en quelque sorte devenu un mème.
Ah, ça contribue forcément à la communication politique et ça influence un public visé, c'est clair. Après, moi, personnellement, je pense que ça m'influencerait pas plus que mes opinions politiques déjà installées. En soi, ça pourrait rajouter de la sympathie sur quelqu'un que j'apprécie déjà et rajouter de l'agacement sur quelqu'un qui m'agace déjà. Dans ce sens-là, ça pourrait m'influencer. Mais de toute manière, ça s'inscrit, comme je disais, dans une logique de communication politique exprès et volontaire aussi.
Ça permet aussi à des gens qui ne sont pas forcément très, très déjà captés par la politique de s'y intéresser. Donc si ça permet ça, bah, tant mieux en fait. Même si c'est... Après, il faut savoir aussi de quoi est-ce qu'on partage, etc. Parce qu'il y a des mèmes qui peuvent être détournés et qui peuvent être repris par des gens dont on ne partage pas du tout les idées. Mais tant que ça reste un bon enfant, entre guillemets, on va typiquement reprendre la capture d'écran de Le Pen qui montre une capture d'un tweet. C'est pas gênant, c'est... Voilà, si ça permet aux gens de s'intéresser à ce qui s'est dit dans le débat, tant mieux.
Il fait chaud, et que veut dire la chaleur? À poil!
Après avoir fait barrage tel des castors que nous sommes, réalisant notre cher et tendre président banquier, celui-ci aurait bien voulu conforter son assise à l'occasion des législatives. En gros, c'est juste un moyen d'avoir la majorité absolue, soit 289 sièges sur 574 à l'Assemblée nationale, et pouvoir faire passer Pépouze ses lois. Sauf que Manu, il a vu Jean-Luc et sa nupe se débarquer, tout en faisant les yeux doux aux fachos. Résultat, les macronistes ont une majorité plutôt relative, pendant que NUPS et RN jouent à celui qui a la plus grande. Les droitards, pendant ce temps-là, hésitent toujours entre Macron et Le Pen. Ah, et aussi, la NUPS s'est déjà fracturée. En fait, c'est comme il y a 5 ans, sauf qu'il y a désormais 89 députés RN au Parlement, et que les macronistes préfèrent faire barrage à la gauche qu'à la droite, comme des castors. Et putain, qu'est-ce que le plein d'essence est cher.
Cette chaleur est de pire en pire chaque année. Mais comment se porte notre climat?
Au fait, je me prépare pour la marche pour le climat demain. Tu m'accompagnes?
Ouais, non, je peux pas. Je suis trop fatiguée en ce moment. J'ai trop de travail.
Oh là là, mais faut te bouger, ma vieille. Tu n'auras plus le temps de te reposer si le monde s'écroule. Tu le sais, ça? Un Français produit environ 10 tonnes de CO2 par an. Et je suis sûre que toi, tu fais plus de 10 tonnes de déchets par an avec tes vieilles boîtes de raviolis en conserve. C'est collectivement qu'on va faire bouger les choses. Et ça n'est pas en restant dans ton coin que ça ira mieux.
Bah, excuse-moi de n'avoir pas de cuisinier, hein. J'ai pas les moyens de m'acheter de la viande de bœuf élevé en plein air. Je te rappelle que moi, je travaille à Carrefour et avec la hausse des prix, j'ai à peine de quoi m'acheter quelques boîtes de conserve. Et puis collectivement, tu fais pas grand-chose. Tu participes à ça, non pas pour protéger la planète, mais seulement parce que tu veux vivre, et pas mourir.
Mais je suis pas égoïste comme toi, là. Tu penses à la planète qui se consume chaque jour, aux espèces qui disparaissent, et tu imagines si mon pauvre petit caniche était en voie de disparition? Le pauvre!
On va demander à une députée de la NUPS. Et ouais, je connais une députée.
Arrêtons de croire que c'est en produisant toujours plus de richesse qu'on est plus heureux. Moi j'aime bien cette phrase qui dit « plus de liens, moins de biens ». Et arrêtons, moi je suis pour que nos systèmes économiques ne soient plus évalués en fonction de la croissance, mais en fonction d'indicateurs de développement humain. Parce qu'il faut savoir que par exemple, si jamais tu as une catastrophe sur une centrale, que tout est détruit par exemple, et qu'on, avec un impact terrible et qu'on reconstruit plein de choses, ça fait plein de points de croissance. Horrible, horrible. On ne va pas se satisfaire qu'une guerre permet dès son lendemain de le faire plein de points de croissance. C'est comme une aberration. Donc il faut absolument changer cette logique-là. Néanmoins, oui, moi, je pense que le rôle de la jeunesse va être déterminant parce qu'hélas, tu as des personnes plus âgées qu'on n'arrivera plus à faire changer d'opinion, quoi. Et que donc, du coup, c'est pour ça qu'on a un espoir de changement dans la jeunesse. Or, moi, je pense qu'il faut avoir, faut changer ce rapport-là et avoir au contraire un rapport de se dire la nature, ce sont des écosystèmes et nous sommes qu'un maillon dans cet écosystème. Et donc, on doit repenser notre rapport avec dans une logique d'harmonie.
Avez-vous déjà rêvé d'être dans un poste haut placé ? Moi, oui.
Bonsoir, nous nous retrouvons au Festival Expresso à Paris. Il est 2h31 et nous sommes toujours concentrés et présents pour aborder un sujet qui sera plus d'actualité. Nous allons parler des législatives puisque nous avons eu il y a quelques jours le résultat des législatives. Et comme vous le savez, les macronistes n'ont pas obtenu la majorité absolue. Un problème se pose donc, Elisabeth Borne restera-t-elle première ministre ? Celle-ci a demandé sa démission ce lundi, mais le président l'a refusée. Sans surprise, elle devrait rester première ministre. Mais si ce n'était pas le cas, qui lui succéderait ? Peut-être vous ? Nous avons demandé aux jeunes présents à Paris pendant la journée Jet d'encre quelles seraient les mesures qu'ils mettraient en place s'ils se retrouvaient au rang de premier ministre.
Moi, premier ministre, je forcerai toutes les écoles à forcément faire une heure de disco par semaine. Parce que la santé mentale des enfants est importante et que nous devons continuer l'héritage du disco.
Première ministre, je ferai en sorte que les étudiants n'aient pas à s'endetter sur 20 ans pour finir leurs études.
Moi, première ministre, je créerai la première dictature écologique et je poursuivrai par une légalisation totale de la queer communauté ainsi que du cannabis.
Moi, premier ministre, je fais des booms à l'hôtel de Matignon. Déjà, je donne des sous aux SDF, en mode j'essaye de changer la vie dehors.
Alors moi, première ministre, je pense que ma première mesure, ce serait quand même de mettre à jour les congés menstruels pour les personnes qui en ont besoin, parce que ça a été prouvé plusieurs fois que c'est vraiment une bonne idée et que ça a fait ses preuves, Ça permet d'avoir une meilleure rentabilité, d'avoir un jour de repos et de pouvoir se remettre au travail après et être encore plus performant et performante. Et voilà, ce serait ma première mesure.
Moi, en premier lieu, je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de personne au gouvernement ou même parmi les députés qui soit accusée de crime qui est pas vierge, quoi.
Moi, Premier ministre, je mettrai plus de frites à la cantine de tout l'établissement scolaire. Je rendrai les McDo quasiment gratuits. Puis je mettrai des équipements de sport gratuits aussi.
Alors, moi, Premier ministre, déjà, je retire toute la politique. Plus de président, plus de ministre, moi y compris. Et du coup, je trouve un mode de gouvernance complètement innovant, où le peuple reprend sa place.
Moi, Premier ministre, je raccroche à Macron. Genre, je n'y réponds pas.
Moi, Premier ministre, je réfléchis du coup à plus produire sur des quantités énormes, mais du coup sur des quantités raisonnables à l'échelle humaine. Moi, Premier ministre, je retire l'euro, je retire le franc, je retire la monnaie, plus d'argent. On va faire des échanges de pratiques et des échanges de savoir. C'est-à-dire que si je sais faire un ourlet, je fais l'ourlet de votre pantalon et en échange, vous venez me couper les cheveux.
Alors, moi, première ministre, si j'avais du pouvoir, je pense que je vais supprimer la réforme du bac. Je trouve que c'est un peu... Enfin, c'est pas top, quoi. Et sinon, il y a aussi Parcoursup. C'est trop nul.
Oh, il y a encore une araignée dans notre studio. Thaïs, ramène un bocal. Bon, revenons à nos moutons. Adèle va nous présenter des invités originaux.
Dans la ville de New York, un homme en costume d'araignée fait sa propre loi. Qui est-il ? Quelles sont ses intentions ? Sur notre plateau, nous recevons G. Jonas Jameson.
Bonjour.
Propriétaire et rédacteur en chef du Daily Bugle et Peter Parker.
Bonjour.
Un jeune photographe qui est parvenu à photographier l'homme araignée. Première question, messieurs, selon vous, qui est celui qu'on nomme Spider-Man ? Que représente-t-il ?
Je sais pas, ça doit être un... C'est un héros, c'est une personne qui est prête à sauver des vies.
C'est un imposteur ! Il mérite pas sa place ! En tant qu'héros, les gens ne voient pas son véritable visage qui est autre qu'un manipulateur de la société. Impensable.
Est-ce que vous n'enfreignez pas certaines limites à la déontologie du métier de journaliste en le photographiant à son insu? Et le droit à l'image alors?
Oui, bah je l'ai pris en photo parce que c'est un héros et tout le monde se doit de pouvoir voir en image cette personne, tellement elle est fantastique.
Il mérite même pas sa place dans une couverture, cette abomination! À chaque fois qu'il est là, il fait des dégâts partout! C'est un danger public, un danger, je vous le dis, un danger!
Et Spider-Man ne reste qu'à New York. Pourquoi n'intervient-il pas en Ukraine, par exemple?
Bah, il y a beaucoup à faire aux États-Unis, donc il peut pas être partout.
C'est juste un incapable! Il est pas possible de faire quoi que ce soit! Il ne sait pas faire rien du tout! Il ne cause que des dégâts! Vous imaginez en Ukraine? Il y a déjà plein de problèmes en Ukraine! Ça va être un tsunami s'il est en Ukraine! Je vous le dis, un danger!
Et les journalistes n'ont-ils rien de mieux à faire que de s'occuper de petits événements sans importance?
Non, pour moi, tous les événements sont importants et comme dirait l'oncle Ben, un grand conflit implique de grands reporters.
Sans transition, football.
Allez les Bleus! Vas-y Kylian!
Vivien, c'est pas la Coupe du Monde!
Hein? Ah bon? Ça fait 4 ans, c'est toujours en juin la Coupe du Monde.
Bah, c'est organisé en novembre, au Qatar, parce qu'en été, il fait trop chaud.
Le Qatar? C'est encore une magouille de Platini, ça. Ah, le Qatar, ton univers impitoyable. Le Qatar, encore un pays organisateur qui construit des stades pour pouvoir accueillir la compétition. L'impact écologique est quand même bien immense. La climat à fond dans les stades, mon gars. Mais continuez à trier vos déchets. Le Qatar, un pays où on respecte grandement les droits humains. Si t'as le défaut d'être homosexuel ou être une femme, des défauts que tu ne choisis pas tellement, gare à la prison au moindre mouvement. Est-ce que c'est ça les valeurs du foot et du sport en général? Le Qatar, un pays qui adore ses honnêtes travailleurs. Payé aussi bien qu'un gosse dans les usines Nike, le travailleur, souvent originaire d'un pays étranger, précaire, a aussi des chances d'y rester en tombant des chantiers. Et t'as même pas la prime de risque. On espère que des joueurs mèneront quelques actions. Je sais pas moi, Mbappé, Benzema qui se roule une pelle, un brassard multicolore, un genou à terre. Des trucs concrets quoi. Mais bon, on le sait, il y aura rien. Il y a trop d'argent en jeu. Bon, allez le foot quand même.
Johnny Depp nous fait un poème sur ses ressentis.
Pour Amber de Johnny. Jérémiade incessante dans le but d'atterrir ta sympathie, seulement pour ressortir avec un verdict négatif du jury. Nos retrouvailles dans ce tribunal m'ont fait les effets comme une bombe fatale. Tes serments non dits à ton mari. Mais ce qui m'a fait le plus rire, c'est quand j'ai su que tu allais conquérir mon argent, mon image. Traîtresse en détresse, face à tous ces vides promesses, exposée à ses propres contradictions, enfin, mon cauchemar cesse. J'ai ouï dire que ton jeu manquait de pertinence. Tout a été ruiné par tes mensonges. Ton jeu d'acteur sur scène a ému pas plus d'un pigeon sur terre. Sortir un dimanche après-midi, alors que des chasseurs à 3 grammes ne savent pas où ils tirent? Bande de chenapans, promenez-vous dans votre salon, c'est mieux. Ceci est un message de la Fédération Française de Chasse.
Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait.
Oh putain, Michel, on a tapé un truc, je vais voir. Ah, le sanglier, un kawé. Qu'est-ce qu'on fait avec le kawé?
Vous allez rapprocher sur le dos.
Oh merde, Michel, comment on fait pour planquer le cadavre? Ça fait chier là.
Vous avez confondu un lapin avec ma cousine.
Madame, je suis sous pastis, je vois plus très bien moi. Je peux vous offrir un petit pâté pour m'excuser. Au revoir.
Non, vous allez être jugé pour ça. Vous le paierez.
Vous avez écouté l'émission du Radiolab, l'atelier des jeunes de Radio PFM. On espère que ça vous a plu. On a mis tout notre cœur et surtout notre voix. Au revoir.